RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Angle. Alors qu'est-ce que c'est Noël ? Qui est Jésus ? C'est quoi le Coran ? C'est qui l'imam ? Pourquoi on fait Shabbat ? C'est quoi la kippa ? Voici quelques-unes des questions que nos chères têtes blondes peuvent nous poser un jour. Alors parler des grandes religions aux enfants et aux jeunes, c'est pas si simple. Et pourtant, eh bien, dans notre société multiculturelle, c'est bien nécessaire. Parler des grandes religions aux enfants, on en parle aujourd'hui avec mes invités. Virginie Roussel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de « Judaïsme, christianisme, islam, c'est quoi ?» C'est un beau livre illustré, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Et on va parler de comment vous avez travaillé tout ça. Avec nous aussi Marie-Claire Auduit, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes directrice éditoriale aux éditions Crère Bayard. Et ces éditions ont mis en place un parcours de culture religieuse à la découverte des religions. Et ça va de la 6e à la 3e, on en parlera aussi. Et puis avec nous aussi par téléphone, Abdelhak Sali, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes président des scouts musulmans de France et on va voir aussi ce que mettent en place ces scouts musulmans au niveau du dialogue aussi entre les différentes religions. Voilà, parler des grandes religions aux enfants et aux jeunes, c'est notre thème du jour dans Grand Angle.
Grand Angle, proposé par Faustine Fayette.
Alors, parler du judaïsme, de l'islam et du christianisme, de tout ce qui fait les grandes fêtes, et puis tous ces grands noms aussi parfois qu'on entend, le Shabbat, le Ramadan, tout ça, c'est vrai que les enfants parfois, ils regardent avec des grands yeux, ils ne savent pas forcément exactement de quoi on parle, ou ils en entendent parler peut-être dans la cour de récréation. Alors, je me tourne vers Virginie Roussel parce que donc vous avez écrit ce livre, Judaïsme, christianisme, islam, c'est quoi ? Alors c'est quand même un gros sujet. Comment est né ce livre ? Comment est née l'idée ? Et puis comment s'est faite cette aventure éditoriale ?
Alors Faustine, ce livre est d'abord né d'un magazine qui s'appelle Philothéo, qui est devenu aujourd'hui Astrapi Soleil, qui était à l'époque mené avec beaucoup d'intelligence par la rédactrice en chef Bénédicte Jeancourt, également auteur. Et dans ce magazine, il y avait une rubrique qui s'appelle « Autres religions », dans laquelle on présentait alors l'islam, le judaïsme, mais aussi l'hindouisme, le bouddhisme. Et le principe était vraiment adapté à la lecture des enfants, puisque il était réparti sur 2 pages et il répondait à une grande question. Alors, ça pouvait être pourquoi le croissant de lune est-il l'emblème de l'islam ? Sur la page de gauche, vous avez une réponse théologique, historique, en 2 paragraphes. Et sur la page de droite, des témoignages d'enfants, en général 4 à 5 témoignages. Ce qui était une manière de rentrer de manière plus sensible dans le quotidien de l'expression de ces spiritualités-là. Voilà. Et à partir de cette rubrique qui était lue à Philothéo, Bayard a eu la bonne idée de créer ce livre qui s'est enrichi d'une partie christianisme qui n'existait pas à l'époque. Voilà. Et tout ça très très joliment illustré.
Oui, de belles illustrations. Plusieurs illustratrices, illustrateurs. Donc que des femmes. Ah non, il y a aussi un homme.
Oui.
Alors, vous disiez, il y a des témoignages d'enfants. Ça, c'est vraiment pour se mettre à la hauteur des enfants. Ce sont les premiers lecteurs, c'est la cible.
Oui.
Ou ça peut être plus large aussi.
Alors, vraiment, l'idée, c'est que tous les enfants puissent lire cet ouvrage de manière très autonome. C'est-à-dire sans les parents, d'abord. Donc, c'est adapté pour les 7-12 ans. Sachant que beaucoup de familles m'ont dit le lire en famille ou les adultes le lire pour eux-mêmes, puisque découvrant ou leur propre religion ou d'autres religions. Donc, c'était un premier engagement. Le deuxième engagement, c'est vraiment de ne pas marquer de hiérarchie entre les 3 religions. Et de toujours avoir cette grande réserve qui se formule très simplement. Alors, selon les croyants, selon les musulmans, selon les juifs, selon le Coran. Voilà. Ce qui laisse la possibilité aux enfants qui ne croient pas, qui se questionnent, qui sont curieux, de pouvoir aborder ce livre sans se sentir exclus. Donc c'était ça. Et la troisième, c'est qu'il y ait vraiment une grande intégrité, un grand respect des textes, de l'interprétation et une grande ouverture aussi. Donc ça, je vous réponds peut-être pas précisément à la question, mais ça, c'était l'enjeu. Votre question concernant les témoignages, oui, d'abord, il y a une identification.
Et oui.
Voilà. Mmh. Et puis, ce sont des témoignages majoritairement d'enfants de 7 à 12 ans. Il y a quelques témoignages d'adultes, mais l'idée, c'était vraiment de s'approprier la spiritualité de l'autre au quotidien, à travers les fêtes, à travers les rituels, à travers des expressions d'enfants.
Et alors, j'en citerai tout à l'heure quelques-uns, mais il y a des mots d'enfants en plus qui sont vraiment très touchant, très profond aussi. Il y en a qui sont rigolos, mais voilà, on sait que les mots d'enfant, voilà, il y a aussi des mots assez forts. Donc, on en citera quelques-uns. Vous disiez qu'il y avait une partie qui était écrite par ou un théologien ou voilà quelqu'un dans la partie de sa religion qui justement était un peu. Vous êtes entouré de qui comme auteur pour peut-être relire, vérifier qu'il n'y avait pas de non-sens.
Voilà. Alors non, c'est moi qui ai écrit les textes à 97-98%. Vous voyez qu'il y a 4-5 autres auteurs qui ont écrit, dont Bénédicte Jeancourt, qui ont écrit aussi un texte. Mais donc, les auteurs sont responsables de ce qu'ils écrivent, mais évidemment, le tout est relu. Alors, je dirais par des experts, par des théologiens qui ont à la fois une grande intégrité, une grande connaissance, et qui savent aussi s'adapter aux enfants. Ça, c'est extrêmement important.
Alors, oui, parce qu'on écrit, là, c'est vraiment écrit de manière... et pas simplifié dans le sens... c'est pas simplifié, c'est vraiment pour les enfants.
C'est être le plus simple possible, mais sans être simpliste.
Sans être simpliste.
Voilà. Ouais. Alors, je pense qu'on peut les citer parce qu'ils ont donné aussi beaucoup de leur temps, de leur énergie. Dans les personnes que nous remercions, que je remercie, il y a Rivon Kriguet, qui est rabbin de la communauté Adat Shalom à Paris dans le 15e. Le père Sébastien Anthony, bien sûr, et Mohamed Bachir Oulsas, qui est imam khatib à l'Institut andalus de Châtenay-Malabry, dans le 92. Voilà.
Oui. Et Sébastien Anthony, qui fait partie des Assomptionnistes.
Absolument.
Qui est prêtre assomptionniste.
Absolument. Et donc, l'imam khatib est enseignant aussi à l'Université de Strasbourg.
Et alors, donc là, ça c'est vraiment pour la partie, on va dire, écrite sérieuse. et puis, donc, il y a tous ces témoignages-là. Comment vous avez fait pour aller recueillir tous ces témoignages d'enfants, d'adultes, de jeunes?
Alors, ce sont des témoignages aussi très sérieux, même s'ils ont parfois un petit peu d'humour. Hein. Mais, alors, ce sont des enfants... Tous les enfants qui sont cités sont de vrais enfants. C'est-à-dire que les prénoms sont bien les prénoms de ces enfants-là, l'âge correspond. Donc en fait, moi j'ai sollicité un certain nombre, beaucoup de paroisses, notamment de Paris et d'Île-de-France. Je suis allée voir aussi à la mosquée de Paris, à la sortie de la mosquée de Paris, j'ai contacté la radio Beurre FM, les scouts musulmans de France, pour avoir un panel très large. Et parmi aussi les paroisses qui nous ont reçues, ou les temples, ou les synagogues, ou les mosquées. Donc il y a évidemment la communauté Adat Shalom, je l'ai cité tout à l'heure. La paroisse Saint-Corbinien et Saint-Pierre, Saint-Paul à Évry. La paroisse Saint-Damien de Veuster à Épinay-sous-Sénart. La paroisse de Saint-Rémy de Draveil, donc tout ça on est dans le 91 hein, pour ces trois paroisses. La paroisse Saint-Dominique à Paris 14e, la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Paris 16e, la paroisse Saint-Gabriel à Paris 20e et l'Institut andalus de Châtenay-Malabry, je l'ai dit, dans les Hauts-de-Seine, ainsi que les scouts musulmans. L'idée, c'était vraiment d'avoir un panel très large, avec des enfants qui sont de Paris, de banlieue, venus d'autres pays, d'autres contrées, et dans des milieux sociaux, culturels extrêmement différents.
Oui, vous deviez avoir une riche matière de mots d'enfant.
Hein. Oui, et il a fallu en choisir quelques-uns.
Oui, on fera justement un petit peu le best-of tout à l'heure. Alors, vous parliez des scouts musulmans de France. Donc, nous avons avec nous donc Abdelhak Sali. Bonjour.
Alors, oui, bonjour.
Voilà, vous êtes donc le président des scouts musulmans de France. C'est vrai que j'ai voulu vous faire intervenir et on en avait discuté voilà avec Virginie en préparant l'émission. Parce que il y a plusieurs temps que vous faites des rencontres, notamment avec d'autres scouts. Mais avant que vous nous parliez de ça, peut-être représentez-nous un petit peu votre mouvement des scouts musulmans de France, qui est peut-être pas connu pour tout le monde.
D'accord. Très rapidement, bon, je tiens quand même à remercier Virginie pour sa confiance et vous, Faustine, pardon, pour nous donner la parole, hein, et bien sûr la radio RCF. Souhaiter une bonne fête. En cette journée du 8 décembre aussi,
pour oui, la fête de l'Immaculée Conception.
Et oui, de la Vierge Marie.
La Vierge Marie.
Importante en tout cas dans la tradition musulmane. Oui. Et à deux titres, cette date pour nous est très importante, scout musulman de France, parce que c'est aussi la date à laquelle les Nations Unies ont adopté à l'unanimité une résolution pour proclamer une journée mondiale, enfin une journée plutôt internationale du vivre ensemble en paix. Donc le 8 décembre 2017, les Nations Unies, à l'initiative, et c'est pour ça qu'on est très fiers, parce que c'est à l'initiative du fondateur des scouts musulmans de France, qu'on a cette journée, tous les 16 mai, dorénavant, et la journée internationale du vivre ensemble en paix. Ça vous donne un petit peu l'idée, un petit peu du mouvement, donc dans cette rencontre du vivre ensemble. Donc le mouvement a été fondé en 1991, donc par le Cheikh Ben Tounes, et l'année prochaine, on fête d'ailleurs nos 30 ans.
Eh oui, 30 ans, c'est une belle fête, hein.
C'est une très belle fête, oui, c'est une très belle fête. On est aussi membre de la Fédération du scoutisme français, comme vous le signalez tout à l'heure, parce que c'est comme ça qu'on partage, en fait, avec d'autres composantes de la société française, donc des valeurs, mais aussi des rencontres. On a été accompagné à la création du mouvement par les scouts de France à l'époque, donc les scouts catholiques, qui nous ont aidés justement, qui ont formé nos premiers cadres. Et quelques années après, ben, c'est nous qui avions transmis le relais en accompagnant les éclaireurs de la nature qui sont de tradition bouddhiste.
Ah, mais c'est magnifique, ces transmissions et ces rencontres.
Exactement. C'est une grande famille humaine, en fait. C'est la famille humaine, cette humanité.
Et alors, donc, cette journée internationale du vivre ensemble, alors, qu'est-ce qui se passe de particulier? Alors, enfin, je sais pas, peut-être que cette année, c'est un peu particulier, parce qu'avec le confinement et tout ça, il y a peut-être moins de choses, mais il y a quand même y a des initiatives locales, ou comment ça se passe?
Tout à fait, oui. Il y a des initiatives, pardon, à travers le monde, déjà, parce que tous les pays se le sont appropriés. Et nous, en France, chez les scouts, ce qu'on a fait cette année qui est particulière, parce qu'on n'a pas pu nous rencontrer physiquement, mais on a quand même eu la possibilité d'échanger à travers les réseaux sociaux, à travers des Zooms, d'autres types de rencontres. Mais ça crée toujours du lien. En tout cas, on garde le lien. Et cette journée, finalement, permet, pour celles et ceux qui connaissent le scoutisme, toujours de mettre un... Lorsque vous faites des actions avec des enfants, en fait, vous posez un imaginaire, un cadre, qui leur permette justement d'aller chercher au plus fond, au fond d'eux-mêmes, en fait, au plus profond d'eux-mêmes, pardon, cet imaginaire qui va les aider à grandir. Et donc, cette journée internationale est un cadre, tout simplement, qui va permettre la rencontre, qui va permettre de créer des projets, qui va permettre de créer... toutes sortes d'initiatives qui permettent justement cette réconciliation dont on a tant besoin aujourd'hui de cette famille humaine. Donc voilà ce que permet cette journée. Bien sûr, c'est pas une journée qu'il faudrait seulement, mais c'est comme toutes sortes de... Comme si on prenait le ramadan, mais le carême, en fait, ça permet à l'être humain, quelque part, de s'entraîner, si on veut, un petit peu, pour qu'il puisse le faire tout au long de l'année.
Et alors, il y a un autre événement aussi, une autre initiative qui s'appelle la Tente d'Abraham. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors, mais je vous parlerai aussi des événements que l'on fait en scoutisme français, parce que la Tente d'Abraham est un concept scout musulman de France. Mmh. Et j'y reviens juste après.
D'accord.
En fait, on est une fédération. On a les scouts et guides de France, on a les éclaireuses éclaireurs de France, on a les éclaireuses éclaireurs unionistes de France, on a les éclaireuses éclaireurs israélites de France et on a les éclaireuses éclaireurs de la nature. Donc il y a six mouvements, enfin six associations dans cette fédération. Donc vous avez les catholiques, vous avez des protestants, vous avez des juifs, vous avez des bouddhistes, vous avez celles et ceux qui ne se rattachent pas à une tradition particulière, vous avez les scouts musulmans de France. Et tout ça forme société au sein de la Fédération du scoutisme français. Donc, si vous voulez, on a quelque part un microcosme de la société au sein de la Fédération. Et au sein de la Fédération, on crée des actions qui permettent aux enfants, dès leur plus jeune âge, de se rencontrer, d'échanger. Tout à l'heure, vous parliez des questions du Ramadan, qu'est-ce que Shabbat, qu'est-ce que être bouddhiste, etc. Et ben, on a une action qui s'appelle « Vis mon camp », où des enfants partagent des temps ensemble. Et ça permet, vous connaissez les enfants, quand ils posent des questions, il n'y a pas de filtre. Ah, c'est vraiment sûr. Sans filtre. Donc, c'est vraiment quelque part naturel. On est vraiment dans l'échange franc et sincère. Donc, les enfants se posent la question, mais si tu fais la prière, tu ne la fais pas en arabe, est-ce qu'elle est valable, elle n'est pas valable? Qu'est-ce que c'est être bouddhiste? Et vous avez des enfants qui disent, mais moi je pensais qu'être bouddhiste c'était juste se relaxer, être zen. Je pensais que si on faisait la prière, c'était uniquement en français. Bon, il y a des petites choses comme ça qui permettent justement de se poser toutes les questions possibles et quelque part faire tomber tous les fantasmes autour du religieux et la pratique religieuse des autres. Ou non, parce que vous avez aussi... comme je disais tout à l'heure, des éclaireuses et éclaireurs de France qui ne se rattachent pas à une tradition, mais qui ont des convictions. Donc ça permet de partager. Et la tente d'Abraham, qu'on a lancée pratiquement dès les débuts des scouts musulmans de France, c'est des temps de rencontre autour d'une thématique à laquelle on fait participer, que ce soit des théologiens, mais aussi des politiques, des personnes de la société civile, enfin, la société plus globalement. Et on propose une thématique, et là on débat, on échange, on se pose toutes les questions. Ça permet à l'image d'Abraham d'avoir, si vous voulez, une tente qui est ouverte aux quatre vents, où tout le monde peut venir chercher ce dont il a besoin et donner ce qu'il peut donner, en fait.
Alors on sent que...
partage.
On sent que donc cet échange, ce partage, ce dialogue que vous permettez dès le plus jeune âge, voilà, ça traverse un peu tous les âges de votre mouvement donc scout musulman de France. Et pourquoi cette découverte, cette connaissance des religions de l'autre, pourquoi c'est important à transmettre selon vous?
Bah parce que déjà c'est une histoire commune à l'humanité. On ne peut pas aller vers l'avant si on ne sait pas d'où on vient. La tradition musulmane n'a pas commencé d'un jour à l'autre. Il y a eu toute une histoire auparavant. Il y a tout un liant autour de ça. Si on prend le chapelet, l'image du chapelet, on a le fil du chapelet qui relie tous les grains. Et tous les grains et cette humanité. Alors dans les grains, vous avez l'islam, vous avez le bouddhisme, vous avez la chrétienté, vous avez le judaïsme, etc. Tout ça, ça fait partie de l'histoire humaine. C'est important que le jeune, quel qu'il soit, musulman ou non, puisse se relier quelque part à cette famille humaine, à travers cette histoire. Donc c'est important que les enfants sachent, comprennent d'où ils viennent, que représente leur tradition et que représente la tradition de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait dans chacune de nos traditions? Et excusez-moi, parce que tout à l'heure vous parliez du croissant.
Oui.
Pour nous, le croissant, on a ce symbole, vous regarderez le logo des scouts musulmans de France, le croissant, pour nous, ce n'est pas uniquement le symbole de l'islam. Le croissant représente l'acquisition des connaissances, en fait. Vous savez, la lune commence par un croissant, ou se termine par un croissant, en tout cas, on va dire qu'elle commence par le croissant, et plus elle avance dans le temps, plus elle devient pleine. Et qu'est-ce qui se passe quand la lune devient pleine? Eh bien, elle éclaire beaucoup plus. Et elle permet de montrer un chemin ou montrer le chemin. Donc, l'acquisition des connaissances permet aussi de cheminer. Donc, voilà pourquoi il est important où cette connaissance est importante. Et toutes nos actions, en fait, sont basées sur le cultuel, mais aussi le culturel et le spirituel. Vous avez le dogme, mais tout ça est lié à une culture, à une histoire. Et vous avez le sens que l'on donne à tout ça.
Alors, je vais faire réagir peut-être Virginie, parce qu'on sent que ça rejoint aussi la ligne éditoriale du livre. Et puis, je pense que ça rejoint complètement aussi la ligne éditoriale du parcours découverte des religions. Virginie.
Oui, je trouve que ça illustre parfaitement l'esprit de l'ouvrage. Et ça montre aussi à chacun que il est possible de parler de religion, de spiritualité, avec cette même douceur, cette même ouverture, cette même intelligence et ce même partage. Donc, si ça existe, ici, là, maintenant, ça peut exister partout ailleurs.
Marie-Claire Reduit, qui est donc aux éditions Crère Bayard, avec ce parcours à la découverte des religions, vous rejoignez aussi ce fil de l'histoire commune de l'humanité.
Bah, tout à fait, c'est l'objectif principal en fait du parcours, qui est d'offrir aux collégiens un moyen justement de découvrir la dimension religieuse et spirituelle de notre culture commune, de notre histoire commune. On baigne tous là-dedans, c'est leur réalité aujourd'hui en cours de récré, et c'est un vrai enjeu de les accompagner dans cette connaissance. Oui.
Et cette connaissance, Abdelak, cette connaissance qu'ils ont, qui développent peut-être au scoutisme, ce qui est beau, c'est que justement, ils vont l'amener avec eux partout où ils vont, c'est-à-dire à l'école, dans leur famille. Voilà, ça se déploie, quoi.
Oui, ça, c'est la force du scoutisme, quel qu'il soit, en fait. C'est pour ça que le scoutisme, en fait, fonctionne comme méthode. C'est une méthode éducative qui fonctionne parce qu'elle est déjà plus que centenaire. Elle a traversé déjà deux guerres, quand même. Et elle a été très présente, justement, dans le lien de cette famille humaine. À chaque moment difficile et même joyeux, les scouts étaient présents. Et ils se sont pas, ils se sont retrouvés autour de valeurs. Autour de valeurs, ces valeurs, elles sont peut-être religieuses, elles sont d'abord avant tout et humaines. Donc, les valeurs transmises par le scoutisme, qu'ils soient colorées par la tradition musulmane ou qu'ils soient colorées par la tradition bouddhiste ou bien catholique ou protestante ou israélite, enfin juive, elle permet quelque part à l'enfant de grandir, mais de grandir sereinement et de façon apaisée.
Merci beaucoup Abdelak Sali, président des scouts musulmans de France. Vous évoquiez en introduction cette fête de l'Immaculée Conception aujourd'hui, que nous fêtons aujourd'hui, 8 décembre. Et justement, je vous propose d'écouter un Ave Maria, l'Ave Maria de Caccini, et qui a été interprété dans le cadre du concert Les Religions à l'Unisson. Et ce sont trois chanteurs, je vous invite à bien écouter, ce sont trois chanteurs des trois confessions, chrétiens, juifs et musulmans. Ce concert a été donné en octobre 2016 à Casablanca. Et donc, on a une jeune femme qui chante l'Ave Maria et par-dessus se rajoutent les voix des traditions et juives et musulmanes. C'est magnifique. Et donc, je vous propose d'écouter ça aujourd'hui, 8 décembre. On se retrouve tout de suite. Ouais. Là, c'était beau, hein, ce qu'il a dit. Sur la lune, sur le croissant, là, déjà, j'avais trouvé ça joli, ce qui était dit. Je ne connaissais pas vraiment ce qui était dit dans le livre. Et là, je trouve que... Et cette image du chapelet aussi. Je pense que parce qu'il a écouté le chapelet... C'est l'Ave Maria de Caccini que vous écoutez. Un Ave Maria qui a été chanté lors du concert Les Religions à l'Unisson. Et trois chanteurs de trois confessions différentes, chrétiens, juifs et musulmans. Voilà, on chantait ça en octobre 2016 à Casablanca. Et nous écoutons cela aujourd'hui. Nous sommes la fête de l'Immaculée Conception, 8 décembre. Et nous parlons dans Grand Angle de la transmission de la connaissance des grandes religions aux enfants et aux jeunes.
Grand Angle, Faustine Fayette.
Alors avec moi pour en parler, donc Virginie Roussel, donc auteure de Judaïsme, Christianisme, Islam, c'est quoi, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Et puis Marie-Claire Auduit, donc directrice éditoriale des éditions Crère Bayard. Et on va parler tout de suite avec vous du parcours de culture religieuse, donc à la découverte des religions, qui est mis en place donc par Crère Bayard, de la 6e à la 3e. Alors c'est un parcours qui est assez récent, qui est en cours d'élaboration. Voilà. Pourquoi ce parcours a été créé? C'est à l'initiative de qui? Comment? Alors, de savoir un petit peu.
À l'origine, c'est né déjà d'un simple constat qui était qu'en librairie, il y avait assez peu de parcours de découverte des religions à destination de l'école, et en particulier de l'enseignement catholique, alors que l'enseignement catholique a réaffirmé encore récemment à quel point le dialogue interreligieux était important pour eux. Et ils ont un espace dans leurs heures de cours pour évoquer ces sujets. En fait, ils ont les établissements proposent des heures de catéchèse à ceux qui le souhaitent. Et ils ont aussi des cours en commun qui rassemblent les classes, soit de culture chrétienne, soit de culture religieuse. Donc, c'était déjà un constat purement éditorial. Ouais. Il n'y avait pas grand-chose. Et ensuite, c'est né de la part des auteurs que je vais vous présenter. Vraiment, pour eux, c'était une nécessité, en fait. Hein. On est dans un monde, on l'a déjà dit, ouvert, cosmopolite. Ces fameux collégiens, plus tard, vont voyager, vont être confrontés à plein d'autres cultures. Au sein même des classes, dans l'enseignement catholique, il y a une très grande diversité. Les catholiques sont souvent, d'ailleurs, assez minoritaires,
oui, en fait, on n'imagine pas ça.
Non, il y a vraiment des grandes mixités qui font que le dialogue, il est nécessaire au quotidien. Et pour bien dialoguer, il faut bien se connaître. Donc c'est vraiment, mieux se connaître pour mieux dialoguer. C'est vraiment cet impératif qui a entraîné donc l'auteur. Albertine Michel, elle est professeure documentaliste à l'externat Notre-Dame de Grenoble et elle enseigne le fait religieux depuis plusieurs années. Et c'est un travail d'écriture collectif puisqu'elle est accompagnée d'André Anthony qui est père assomptionniste et de sœur Véronique Thiembault qui est religieuse de l'Assomption, formatrice et qui est spécialisée dans la pédagogie du désir. C'est son objet de travail. C'est une pédagogie qui cherche à impliquer fortement les élèves et qu'on va retrouver dans l'esprit de ce parcours. Et enfin, bien sûr, parce qu'on a besoin d'une relecture experte, on a le frère Emmanuel Pisani, qui est directeur de l'Institut de sciences et de théologie des religions à Paris, qui nous fait une relecture minutieuse.
C'est quand même des thèmes... particulier, il faut pas faire d'impair. Hein.
Clairement, ouais. Chaque mot est pesé, hein. Sous-pesé. Et puis enfin, ça c'est peut-être la spécificité de ce parcours par rapport à ce qui peut exister. C'est né aussi d'un pari qui est que découvrir les autres religions, ça permet aussi d'approfondir sa propre identité religieuse ou non religieuse. D'où le caractère impliquant du parcours pour tous les jeunes, en fait.
Donc là, niveau collège, il y a un thème, il y a un parcours pour chaque niveau, avec une orientation pour chaque niveau à adapter, j'imagine, à l'âge de l'enfant.
Tout à fait.
Alors, 6e, 5e, on va peut-être détailler un petit peu qu'est-ce qui se fait à chaque niveau.
Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que comme dans le livre de Virginie, on n'est pas uniquement sur les trois monothéismes. On aborde aussi l'hindouisme et le bouddhisme. Mmh. Et on a cette même posture de respect à l'égard des cinq avec, tout le monde est traité à part part égale. En sixième, c'est un très beau parcours avec un beau titre qui s'appelle « Aimer son temps ». Ça pourrait presque être le titre de la collection. Là, c'est vraiment une année de découverte et d'appropriation des cinq religions et sagesses principales, avec une approche assez sensible. C'est-à-dire qu'on va partir vraiment de la vie quotidienne du jeune. Quelles traces du sacré on peut trouver dans la nature, dans les villes, dans les maisons. Voilà. Donc, première approche. En cinquième, le parcours s'appelle « Au rythme du divin ». On est vraiment sur le sens des rites et des pratiques qui rythment le temps dans les grandes religions. Donc, ça peut être le temps quotidien, avec notamment la manière dont chacun prie. Ça peut être le temps de l'année, avec les différents calendriers. Ouais. Et puis, ça peut être aussi et les fêtes, les grandes fêtes religieuses, bien sûr. Et puis, ça peut être aussi le temps d'une vie avec tous les grandes rites étapes, liés à des passages, à des grandes étapes, que ce soit l'enfance, l'adolescence, le mariage, l'engagement, jusqu'à la mort. Voilà. Donc, ça, c'est la cinquième. En quatrième, on est en train de l'écrire, puisque le niveau sixième et cinquième sont déjà parus. Le niveau quatrième va paraître au mois de mai. Il se consacre au patrimoine religieux. Donc, on évoque au sein de chaque grande religion, la diversité déjà qui peut exister au sein de chaque mouvement. Et puis, on s'attarde beaucoup sur le patrimoine architectural.
C'est une belle façon aussi de découvrir.
Oui.
Une manière aussi assez concrète à travers ce qu'on voit.
Oui, il y a vraiment une
aussi.
Approche très, très sensible avec beaucoup d'approches par l'art, par exemple, ou la musique. On fait appel un peu à tous les sens. Donc, on va pouvoir faire écouter différents types de musique sacrée et demander aux jeunes ce qu'il ressent, par exemple. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment une spécificité de ce parcours. On n'est pas juste dans l'étude d'un fait religieux extérieur. Les auteurs ont vraiment à cœur de montrer qu'une religion, c'est vivant, ça se vit, qu'il y a plein de gens qui en vivent aujourd'hui. Et voilà, que ce n'est pas juste un objet d'étude.
Ouais. Voilà. C'est dans l'expérience aussi, on sent.
Voilà. Et enfin, en troisième, donc qui paraîtra l'année suivante, on s'attardera sur les grands témoins de notre histoire. Ça nous paraissait intéressant à un âge où les jeunes commencent à bien réfléchir à leur projet de vie, voilà, d'avoir des grands exemples.
Souvent des grandes figures aussi, des modèles, ça interpelle beaucoup les jeunes. Alors, ces deux premières années-là, pour l'instant, qui sont parues, sixième, cinquième, donc ça a été, c'est paru il y a 2 ans, quelque chose comme ça, 2 ans.
Alors, cinquième, c'est paru en mai dernier, sixième encore l'année d'avant.
Donc, c'est en train d'être, ça a été testé avant, je crois.
Voilà, l'année de sixième et l'année de cinquième, d'ailleurs, avant chaque publication, on le teste dans plusieurs établissements. Pour l'année de sixième, c'était particulièrement important, puisque c'était la première fois on se confrontait à la réalité de plusieurs classes. En fait, on a choisi 3 établissements qui ont bien voulu faire ce test. On a choisi des établissements avec des réalités bien variées. Donc, il y a par exemple, le collège Puy-Ségur à Rabastens dans le 81, qui est donc un petit établissement plutôt rural. On a le collège Sainte-Thérèse de Montgeron dans le 91, qui est là plutôt un établissement de banlieue, de très très mixte en fait. Et puis l'externat Notre-Dame à Grenoble, qui est plutôt un gros établissement de centre-ville. Voilà, on avait à cœur d'avoir des classes différentes. Voilà.
Et alors les retours ont été
Ça a été
à la hauteur de vos espérances.
Oui. Alors, on a eu des retours qui nous ont permis de faire des petits ajustements. Mais on a eu surtout... ça validait complètement la démarche du parcours, puisqu'on a eu des retours très positifs. notamment sur la démarche, cette démarche implicante qui est un peu novatrice hein, dans le domaine, a été vraiment bien perçue. On nous disait qu'il y avait des échanges extrêmement intéressants dans des classes, la parole qui se libérait. Enfin voilà, ça c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Du côté des profs aussi, on a été quelque part un peu rassurés parce qu'on sait qu'il y a pas mal de professeurs qui ont une certaine crainte à se lancer puisque ayant l'impression de ne rien connaître en fait. C'est vrai que nous-mêmes ou eux-mêmes n'ont pas été forcément formés à la connaissance de ces religions, et donc on peut avoir une crainte à se lancer soi-même, et en fait voilà, le guide du professeur les accompagne. Et d'un point de vue personnel, on a eu des retours. C'est super, j'apprends plein de choses, même d'un point de vue personnel.
C'est un peu ce que je me suis dit aussi en lisant le livre Virginie Roussel, donc votre livre Judaïsme, Christianisme, Islam, c'est quoi ? Parce que on se dit aussi que finalement, il y a peut-être une génération. Enfin, aujourd'hui, les enfants, ils sont habitués à voir dans les cours de récréation de toutes les couleurs, de toutes les religions. Voilà. Il y a quelques dizaines d'années, c'était pas du tout le cas. Et peut-être la génération de nos parents et de nos grands-parents, cette connaissance des autres religions, elle était beaucoup moins présente. Et votre livre peut-être peut aider des parents ou des grands-parents finalement à découvrir un peu autrement, mine de rien, en lisant ça avec les enfants.
Oui, alors c'est ce qu'on me dit. Je vais faire un parallèle un peu aussi avec la cuisine. C'est-à-dire qu'il y a on peut dire peut-être, bon, tout dépend de quelle génération on parle, mais que les grands-mères cuisinaient, que les mères ont moins cuisiné, quoique des mères cuisinent et travaillent, élèvent leurs enfants, mais qu'il y a eu comme ça un manque dans la transmission. Ça, c'est une première chose. D'où la foultitude de livres de cuisine, et c'est bien. Et puis, donc ça, c'est un premier aspect qui permet de combler, on va dire, des lacunes, des manques, et donc aux parents eux-mêmes d'aussi de donner des réponses à leurs enfants, à la fois dans leur propre religion ou concernant la religion d'autres, ou combien même ils seraient athées. Il y a aussi une seconde chose, c'est que la transmission de la foi ne se fait plus comme avant. On n'est pas dans une approche dogmatique, c'est vraiment une approche par le questionnement, d'où le format aussi de ce livre. Donc l'enfant apprend en questionnant, en se questionnant et en remettant en question aussi. Et donc c'est avoir la capacité de l'entendre, de ne pas asséner des vérités ou des phrases, et de donner du sens. Et je pense que dans la pédagogie, dans l'apprentissage, il y a quelque chose de nouveau et de très intéressant, je trouve, dans cette nouvelle génération qui peut y mettre encore plus de discernement et d'intelligence.
Ce questionnement, c'est ce qui crée aussi l'échange, Marie-Claire, dans ses parcours.
Oui, ben ça, c'est vraiment tout le travail pédagogique des auteurs. Il y a, bien sûr, le principal reste le passage de connaissances. On apprend plein de choses sur les religions, mais on souhaite vraiment susciter le questionnement de l'élève. On n'est pas simplement dans le documentaire. On veut le rendre acteur. C'est-à-dire, ça se matérialise, par exemple, par beaucoup d'espaces d'expression libre. Il y a beaucoup d'activités d'observation, par exemple. Il y a deux mascottes, Eugénie et Naël, qui accompagnent le jeune dans tout le parcours, auxquels ils peuvent aussi s'identifier et qui parfois va leur poser des questions, va renvoyer des émotions ou des ressentis, de telle sorte qu'ils se sentent concernés en fait. Donc c'est tout un travail en fait pour qu'ils soient plus acteurs et plus impliqués, et ça va jusqu'à une expérience d'intériorité avec tous ces exercices qui font appel aux cinq sens. Je vous parlais par exemple de la séance sur la musique. Voilà, on est vraiment dans le ressenti personnel. Il y a aussi des propositions ponctuelles, expérimenter le silence, expérimenter un temps de méditation.
C'est vrai que ça a l'air tout bête, mais en fait, quand on le fait dans un cadre particulier, voilà, avec accompagné pédagogiquement, ça donne tout de suite du sens.
Tout à fait. Et d'ailleurs, sur la fameuse séance de méditation de sixième, petite anecdote, on a donc Thibaut Tecla, qui est l'APS, qui a testé le parcours à Mangeron. Donc
c'est l'agent pastoral, c'est ça ?
Oui, voilà. Donc c'est lui qui administre les cours, du coup, qui, quand il a reçu le document, a vu les pages du livre élève, avec séance de méditation, une photo où on voit des collégiens assis en tailleur sur des tables. Et là, il s'est dit, non, mais ça marchera jamais. vu les loustiques que j'ai dans ma classe, je vois pas comment ça peut marcher. Et puis, en fait, à son grand étonnement, ça a extrêmement bien fonctionné. Les jeunes sont rentrés à fond dans cette démarche. Ça a suscité beaucoup de conversations et d'étonnement. Et progressivement, l'expérience a été refaite dans d'autres classes, d'autres niveaux. Tout le collège y est passé et finalement, des élèves ont demandé à avoir un espace, comme une salle de méditation dans le collège pour pouvoir se poser, en fait.
Ils sont surprenants, ces jeunes.
Voilà, c'est ça.
on va évoquer d'autres expériences, justement, qui se font en collège et lycée, avec Radia Bakouche, qui va nous rejoindre dans quelques instants, de l'association Coexister. Et avant cela, eh bien, on va écouter peut-être une musique. On parlait de musique. Une musique qui, là, est internationalement connue. Alléluia de Jeff Buckley. Mais l'interprétation, c'est interprétée par un groupe a cappella qui s'appelle Pentatonix, un groupe américain. Et c'est une assez jolie interprétation.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the
Alléluia, c'est le Jeff Buckley et c'est une version interprétée par Pentatonix. Vous êtes sur RCF.
RCF, Faustine Fayette.
Et dans Grand Angle, aujourd'hui, nous évoquons les grandes religions. Les grandes religions, on en parle aux jeunes, aux enfants. Voilà, comment on transmet cette connaissance des autres. Et avec moi pour en parler, Virginie Roussel, auteure de Judaïsme, Christianisme, Islam, c'est quoi, aux éditions Bayard Jeunesse. Marie-Claire Auduit, directrice éditoriale de Crère Bayard, avec ce parcours de culture religieuse à la découverte des religions. Et puis avec nous aussi, Radia Bakouche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association Coexister France. Alors, coexister, on le voit déjà dans le nom, il y a quelque chose du vivre ensemble, il y a quelque chose de cette connaissance des autres. Est-ce que vous pourriez nous représenter un petit peu ce que vous faites, et notamment auprès des publics scolaires?
Effectivement, merci beaucoup. Coexister, c'est dans le nom, hein. La finalité de l'association, c'est de créer du lien, de créer des amitiés improbables, de de permettre de favoriser par le biais d'espaces de confiance, d'espaces de dialogue, des moments où on peut parler de ces sujets-là de manière apaisée et où on peut profondément rencontrer l'autre, rencontrer l'altérité, rencontrer des gens bien différents. Donc on réunit des jeunes de 15 à 35 ans qui, par le biais de nouvelles pratiques, de pratiques innovantes, de pratiques liées aussi à l'actualité, créent des événements, des activités pour apprendre à mieux se connaître, donc des événements de dialogue d'abord, des opérations de solidarité ensuite, puisqu'il est important qu'on se retrouve autour de quelque chose de commun, c'est-à-dire la mise au service, la solidarité. Et enfin, en troisième pilier, après le dialogue et la solidarité, la sensibilisation, des ateliers en milieu scolaire. Donc les jeunes de Coexister, lorsqu'ils s'engagent, lorsque ils et elles rejoignent le mouvement, s'engagent également à aller intervenir en milieu scolaire pour parler de ces sujets-là, pour faire de la déconstruction de préjugés, pour parler aussi de la laïcité et parler du fait religieux et de l'engagement des jeunes aussi, de comment est-ce que, en tant que jeune, on peut s'engager. Donc, on intervient en milieu scolaire. Hein, tous les jours scolaires, il y a une intervention Coexister quelque part en France. Elle dure généralement 2 heures. Elle est face à généralement une classe. On aimerait bien que ce soit plutôt une seule classe pour avoir vraiment le temps de l'échange. C'est souvent 2 ou 3 classes. Donc voilà, on préconise que ce soit jamais plus de 3 classes, que ce soit jamais plus de 90 élèves. Et pendant ces 2 heures, l'objectif, c'est vraiment de réussir à mettre en place un cadre bienveillant, respectueux, un cadre avec aussi un apport de connaissances pour que chacun et chacune puisse s'exprimer librement. Et effectivement, quand on fait de la déconstruction de préjugés, on essaye de dire que voilà, c'est normal d'avoir des préjugés, c'est normal de mettre en place des catégories dans son esprit. Tout le monde fait ça sur tous les sujets. C'est encore plus compliqué, complexe et tabou quand ça part de la question du fait religieux. Et donc nous, on est là pour un peu déconstruire tout ça et pour pour toujours essayer de chercher le contre-exemple, de chercher la chose qui nous étonne, d'avoir de la curiosité vis-à-vis de l'autre et ne pas arriver en pensant tout savoir de l'autre. Et le paradigme qu'on essaye de changer. Et je trouvais ça très intéressant, justement, juste avant, Madame Roussel parlait de... Enfin, il ne faut pas asséner seulement des vérités, mais vraiment que les enfants et que les personnes puissent faire l'expérience du choix, du questionnement, etc. Ben, nous, c'est un peu ça qu'on essaye d'apporter, c'est un peu d'objectivité dans toute cette subjectivité pour que, justement, le choix il soit vraiment subjectif et pas seulement basé sur l'environnement familial, social... amicale, etc., mais que vraiment chacun et chacune, on puisse affirmer nos convictions, nos choix, nos convictions notamment religieuses ou philosophiques.
C'est vrai que on parlait depuis le début de l'émission avec votre livre, Virginie Roussel, on est plutôt à l'âge des enfants. Et les enfants, ils posent leurs questions, ils parlent avec toute leur innocence et leur spontanéité. Il peut y avoir des préjugés, mais c'est pas encore installé ou construit. C'est juste que c'est leur environnement. Niveau collégien, avec votre parcours découverte, Marie-Claire, c'est vrai qu'il peut déjà y avoir quelques préjugés que votre parcours va peut-être aider à un peu déconstruire. Je voyais que vous réagissiez.
Bah, des préjugés ou... Enfin, là, j'ai en tête le test du parcours du 6e qui nous a fait changer en fait un sujet qui était... sans doute trop compliqué à aborder, qui concernait la Palestine en l'occurrence. Une professeure de flûte qui nous avait paru sans danger aucun, et en fait on sent qu'il y a quand même des sujets qui aujourd'hui dans les écoles sont compliqués à aborder, donc on a traiter le sujet en partant d'une autre expérience qui est une grande veillée, j'ai oublié le nom, à Paris, qui rassemble des musiciens de toutes les religions, un peu à l'image de l'Ave Maria qu'on a entendu tout à l'heure, qui permettait de traiter du sujet de façon plus apaisée.
Et du coup, Radia, vous, c'est vrai que Coexister intervient surtout dans les lycées, pas dans les collèges, c'est ça ? C'est au niveau lycée.
Surtout dans les lycées, mais aussi dans les collèges.
Aussi dans les collèges, d'accord.
Oui, ouais. J'ai notamment, j'étais moi-même en intervention en milieu scolaire lundi, et donc effectivement, on peut intervenir en collège, donc plutôt 4e, 3e. Je pense qu'on ne fait jamais 6e, 5e.
Ouais,
c'est très 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 rare.
Ouais.
Mais parce que un de nos axes éducatifs, c'est enfin un de une de notre utilité en tant que coexister, parce qu'on n'est pas théologien, on n'est pas enfin spécialiste non plus de la question religieuse, c'est vraiment de faire de l'éducation des pères par les pères.
Ouais.
Donc des jeunes qui s'adressent
c'est
à
les jeunes,
jeunes
qui s'adressent aux jeunes.
Voilà, et qui ça permet aussi de créer un rapport d'égalité et un rapport enfin et un et une manière d'échanger qui est un peu différente.
Alors, il y a Virginie et Marie-Claire qui veulent réagir. Peut-être Virginie d'abord.
Oui, juste une petite précision, c'est de dire que quand même au sein de l'école publique, on enseigne le fait religieux mais à travers les arts, la culture donc en français, en histoire géo et que dans les écoles privées où sont inscrits beaucoup d'enfants musulmans aussi, ce livre ou ces démarches-là permettent aussi aux enseignants d'avoir une base, un socle, de pouvoir communiquer autour de ces questions-là de manière paisible.
Marie-Claire.
Oui, ce que le parcours permet aussi d'installer dans le temps de l'année scolaire un rendez-vous régulier où les enfants savent qu'ils ont cet espace apaisé pour aborder ces questions. Et il y a pas mal de choses qui se jouent dans le temps, en fait. Mmh. On a eu pas mal de retours sur le fait qu'en début d'année, les jeunes musulmans apparemment sont beaucoup plus à l'aise pour échanger sur leurs pratiques, sur leurs connaissances, là où les petits catholiques sont extrêmement sur la réserve. Alors, ça a l'air d'être un constat assez partagé. Et le fait d'avoir ces rendez-vous réguliers, manifestement, ça crée une dynamique et une ambiance de dialogue serein. Voilà.
Il y a quelque chose aussi que vous partagez, Radia a coexisté, c'est ce côté partage à travers l'amitié. Donc il y a ce travail qui se fait auprès des scolaires, des jeunes par les jeunes, et aussi entre vous, même quand vous partez, j'imagine, en milieu scolaire, vous apprenez de celui avec qui vous allez partager l'expérience, qui va être d'une autre religion.
Exactement, et avec qui on ne fait pas que aller en milieu scolaire, puisque on a. D'ailleurs, il faut avoir vécu cette expérience avec l'autre, cette expérience de l'autre, cette expérience de la différence, avant de pouvoir intervenir en milieu scolaire. Et avant même de pouvoir être formé à intervenir en milieu scolaire pour coexister. Et pour nous, c'est absolument essentiel. Parce qu'en fait, la déconstruction de préjugés, oui, on peut passer du temps à creuser la question historique des préjugés, la question sociologique, etc. Mais ce qui marche et ce qu'on veut montrer, c'est la question du contre-exemple par la réalité, que ce soit très, très tangible, très concret. Et ça, c'est par le biais de l'amitié qu'on le vit.
Et qu'est-ce que ça change justement dans les relations ? Vous l'expérimentez, vous personnellement. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement cet engagement ? Enfin, qu'est-ce que ça vous apporte encore aujourd'hui ?
Il me faudrait 4 heures pour expliquer tout ce que m'apporte coexister au quotidien depuis 7 ans maintenant que je suis engagée dans l'association. Moi, ça me permet vraiment de construire au quotidien une nouvelle vision du monde, d'expérimenter aussi les différentes conceptions du monde qu'il y a autour de moi, ça me permet d'approfondir aussi ma propre foi, mes propres positionnements, mes propres choix au quotidien. Je me suis en arrivant à coexister et tout au long de mon engagement, il y a des questions que je me serais jamais posées en dehors de coexister. Les choses qui sont un peu des évidences quand on est dans des groupes de personnes qui nous ressemblent ou même dans des groupes familiaux, il y a des choses qui sont des évidences, qui sont des habitudes, qui sont des traditions, et en fait de re-questionner tout ça parce qu'on a face à nous des personnes curieuses en fait qui veulent comprendre qu'est-ce que ça signifie pour nous et pourquoi est-ce qu'on le fait, ça fait du bien. Et alors c'est vraiment une anecdote très très banale, mais moi je me souviens qu'on m'ait demandé pourquoi, enfin en arrivant à coexister, pourquoi tu fais Ramadan ? Et autant en dehors de coexister, la réponse c'était parce que je suis musulmane ou parce que je crois en Dieu, et puis ça s'arrêtait là et on passait à autre chose. Là c'était vraiment le oui mais pourquoi véritablement, et de creuser aussi, enfin de moi-même me re-questionner. Mais alors c'est vrai, pourquoi est-ce que je fais, pourquoi est-ce que je vis le jeûne et cette spiritualité particulière pendant le mois du Ramadan, et ça apaise totalement. Et ce que je dirais, c'est que c'est ce que ça m'a apporté individuellement, mais aussi j'ai l'impression d'avoir fait l'expérience concrète de ce que ça voulait dire faire société, faire collective. Collectif, j'ai l'impression de vivre une aventure collective avec d'autres. J'ai découvert la notion d'amitié, d'engagement, enfin de regarder vers un même cap avec plusieurs personnes et de rêver ensemble d'un modèle de société.
Ce que vous disiez sur, effectivement, peut-être rechoisir aussi personnellement, c'est ce que disait tout à l'heure Marie-Claire avec ce parcours-là, que ça pousse le jeune aussi pas à se redéfinir, mais à rechoisir ce qu'il est, peut-être, retrouver, comprendre profondément son identité.
Tout à fait, oui. Et je dois dire qu'on a reçu la dernière encyclique du pape Fratelli Tutti vraiment comme une invitation à poursuivre, puisqu'il y a toute une partie, le dernier chapitre, qui est vraiment centré sur ce dialogue indispensable entre les religions. Là, j'ai noté une citation qui résonnait vraiment. C'est extrait du document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune qui avait été signé en février 19 entre le pape et le grand imam Ahmed Al-Tayeb et qui a été repris donc dans Fratelli Tutti. Il disait « Au nom de Dieu et de tout cela, nous déclarons adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. » Et le but, on a parlé de vivre ensemble, mais on pourrait dire tout simplement la fraternité. Et ça passe par une meilleure connaissance de soi et des autres.
Alors, je vois qu'on arrive à la fin de cette émission déjà, et pourtant on aurait beaucoup de choses encore à dire. Je vais peut-être laisser la parole à Virginie Roussel, nous donner un petit peu, on parlait des mots d'enfants, on va pas avoir le temps de dire, il y en a plein qui sont fabuleux dans ce livre-là, mais j'ai demandé à Virginie de nous sélectionner peut-être ses coups de cœur des mots d'enfants, donc qui sont parus dans le Judaïsme, Christianisme, Islam, c'est quoi, paru aux éditions Bayard Jeunesse.
Oui, alors je vais vous en citer trois issus des trois grandes religions qui vous montreront que les enfants sont de véritables théologiens.
Alors, il y a une minute.
Le premier, c'est Nathan, 10 ans. Dans la Torah, on trouve tout ce que nos ancêtres ont fait de bien. Ça nous aide à mieux vivre avec les autres et avec Dieu. Paul, 12 ans. Dans la Bible, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément. Mais si on a la foi, on peut comprendre. On a aussi le droit de se poser des questions. Et enfin, le troisième, Damina, 9 ans et demi. Avant de tuer le mouton, on dit « Bismillah ». Ça veut dire « au nom de Dieu ». Le mouton saura qu'il n'a pas été tué par méchanceté.
C'est vraiment joli. Allez, j'en rajoute une dernière que j'aime bien. Quand on est baptisé, on a davantage la foi, on arrive mieux à rester en présence de Dieu. Avoir la foi, c'est comme avoir la connaissance de la vie. Jessica, 10 ans. Et ça, je me dis, ça pourrait être dit par un enfant de toute religion aussi, cette voix.
C'est très beau.
Très beau, hein. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes. Merci, Radia, d'avoir participé avec nous à cette émission. Merci. Les grandes religions, voilà, vous retrouverez cette émission en podcast sur rcf.fr. Merci à tous.
Merci.